Radio Okapi.
Un dialogue entre les Congolais pour sortir le pays de la crise actuelle, c'est ce que propose l'opposition politique congolaise, notamment les opposants Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila. Proposition contenue dans une déclaration politique signée hier 30 avril. Dans ce journal, les propos de Prince Epengé, porte-parole de la plateforme Lamuka. 1er mai, journée mondiale du travail. Pendant que plusieurs syndicats des fonctionnaires de l'État se plaignent de leurs conditions sociales, le ministre de l'Emploi et du Travail affirme que le gouvernement a déjà pris plusieurs dispositions pour améliorer ces conditions. Dans ce journal, vous suivrez les propos de Ephraim Akwakwa Nametou, aussi sur la question de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Professeur Daniel Okitundu est notre invité. Le médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, était parmi les intervenants de la conférence scientifique autour du manioc, un des aliments de base largement consommés en RDC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. L'opposition politique congolaise mise sur la tenue d'un dialogue entre les Congolais pour sortir le pays de la crise actuelle. C'est l'essentiel de la déclaration politique signée hier 30 avril par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila. Ses opposants au chef de l'État Félix Tshisekedi saluent l'engagement constructif de l'Union africaine, de Doha, de Washington et l'initiative conjointe de CINCO-SCC. D'après leur déclaration commune, je cite, « Toute solution qui ne prend pas en compte les causes profondes endogènes de la crise, qui sont entre autres la violation intentionnelle de la Constitution, la poursuite de la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la fraude électorale, ne peut qu'être factice et éphémère. » Prince Epengé, porte-parole de la Mouka, donne ici la quintessence de cette déclaration de l'opposition. Ses propos sont recueillis par Askenzik Batayoro.
Toutes ces solutions, ces engagements américains, et européens, africains, ne peuvent pas aboutir s'il n'y a pas unité sur le plan interne. L'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, tous nous devons, comme Congolais, être au centre des efforts pour retrouver la paix. Dans les efforts que les Américains et les autres font, on a déjà souligné la nécessité de respecter la souveraineté du Congo. Ça, c'est très important. Mais maintenant, la solution ne viendra pas complètement et totalement de ces initiatives extérieures. C'est à l'interne. Les Congolais doivent se parler, notamment en prenant en compte les efforts qui sont déployés par la CENCO et le CC et ramener la paix rapidement au pays.
L'Union européenne affiche son soutien aux initiatives de médiation en cours en vue d'une paix juste et équitable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la sous-région. C'est le représentant spécial de l'Union européenne dans les grands lacs africains, Johan Bordstam, qui l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. En tournée dans la région, ce diplomate européen affirme que son organisation s'aligne derrière la dynamique de paix régionale traduite par la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, ainsi que la déclaration de principe signée le 25 avril à Washington entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, Johan Bongstam rappelle la nécessité de préserver les acquis des processus de Luanda et de Nairobi, tout en plaidant pour un soutien international au processus régional de l'EAC et de la SADC. Il s'exprime au micro de Ronéline Tibonera.
Nous accueillons ces initiatives et aussi, par exemple, la haute représentante de la politique étrangère européenne, Madame Callas, a aussi salué les signatures à Washington de cet accord de principe. Cela dit, je crois que c'est extrêmement important que chaque nouvelle initiative prend aussi en compte les acquis des processus régionaux déjà en cours. Vous savez, le travail du président angolais, João Lourenço, le gouvernement angolais, eux, ils ont investi beaucoup de ressources, énergie, prestige dans le processus de Luanda. Il existe un vrai acquis. Donc, il faut surtout éviter des situations où on recommence à zéro.
Le ministre de l'Emploi et du Travail affirme que le gouvernement a déjà pris plusieurs dispositions afin d'améliorer les conditions professionnelles de tous les travailleurs congolais. Dans une interview accordée à Radio Okapi à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée ce 1er mai, Ephraim Akwakwa Nametu rassure aussi sur la question de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Il revient ici sur les différentes résolutions prises au cours du dernier Conseil national du travail. Ephraim Akwakwa Nametu est joint par Grace Amzati.
L'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 a envie de renforcer les pouvoirs d'achat des travailleurs et travailleuses en RDC. La fixation des nouveaux SMIC payables à partir du mois de janvier 2026. L'opérationnalisation de la couverture santé universelle à 2,5% par travailleur par mois. Globalement, il faudra retenir que les résultats sont positifs parce que nous avons donné les ressources, notamment supplémentaires à l'INPP, aussi à l'ONEM, mais aussi nous avons tablé sur la question des SMIC par lequel nous avons d'abord fait un ajustement pour le mois de mai qui sera déjà payé à la fin du mois de mai avec un nouveau SMIC dont je ne sais pas vous donner la teneur ici parce que je garde la primaire d'abord à la première ministre aussi au président de la République. Mais sinon, je dois vous rassurer que quand les travailleurs congolais seront informés, ils seront le plus heureux. Moi, je crois, après ce résultat-là, nous devons compter la RDC parmi les pays qui payent très bien, qui ont un bon SMIC en Afrique.
Hier 30 avril, journée nationale de l'enseignement, l'entreprise EdTech Schoolup, spécialisée dans la digitalisation en milieu éducatif, a dévoilé une nouvelle version 2.0 de sa plateforme. La plateforme vient de connaître une amélioration avec 18 fonctionnalités innovantes, incluant désormais la gestion administrative, pédagogique et financière des établissements scolaires en une seule plateforme. D'après Pascal Canic, entrepreneur et cofondateur de Schoolup, ces innovations consacrent la rupture des pratiques dépassées et fastidieuses dans l'opérationnalisation des procédés des systèmes éducatifs traditionnels. Il s'exprime ici au micro de Billy Yvan Lutumba.
Nous lançons la deuxième version de Schoolup, qui n'est pas que l'évolution de notre produit Schoolup qui passe déjà d'une application. La grande innovation encore aujourd'hui, c'est que toute la gestion administrative, pédagogique et financière d'une école peut se faire dans une seule application, Schoolup. Et même une autre innovation également, c'est aussi la partie où l'école peut gérer tout son budget, donc la partie finance, qui est intégrée dans cette même application Schoolup. Et donc nous avons saisi l'occasion de le lancer aujourd'hui à cette journée d'enseignement, parce que nous lançons également notre promotion qui est une facilité qu'on octroie désormais pendant 3 prochains mois déjà à toutes les écoles en RDC, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Bénin qui souscrivent à notre abonnement Schoolup, abonnement annuel pour une école qui commence à partir de $300 par année. Les écoles vont bénéficier jusqu'à 10 tablettes gratuitement de la part de Schoolup afin de faciliter l'intégration du numérique dans les écoles, l'adoption de la technologie, donc des applications. Il y a des centaines d'écoles à qui on va gratuitement offrir jusqu'à 10 tablettes pour que ces écoles bascule complètement vers le digital.
Le tribunal militaire de garnison de Kalemie, province du Tanganyika, a condamné plusieurs personnes hier mercredi, parmi lesquelles des officiers militaires et policiers. Des sources rapportent que le jugement a été rendu dans 3 causes différentes. Des prévenus sont condamnés, certains à la peine capitale, d'autres à la prison à perpétuité ou encore à 20 ans de servitude pénale principale. Une occasion pour le président du tribunal militaire garnison de Kalemie d'inviter la population à faire confiance à la justice. Paula Munanga.
La première cause implique le capitaine Dunia de FRDC poursuivi pour meurtre et il est condamné à perpétuité. La seconde affaire concerne les prévenus Mwamba Kitoko Sinaï et consorts poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre. 2 des détenus sont condamnés à la peine de mort et 1 à 20 ans de servitude pénale. La troisième cause oppose le ministère public au prévenu Jean-Claude Nyembolumbu, commissaire principal de la police et consort, poursuivi pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Tous ont été condamnés à la peine de mort. Le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi invite la population à faire confiance à la justice. Colonel Désiré Majunda Mukole.
La population de Tanganyika doit continuer à faire confiance à l'État, confiance aux institutions régulières de la République. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là. Ce tribunal est là pour elle. Et toutes les fois qu'il y aura des cas que la population n'hésite pas à dénoncer, et le tribunal va faire son travail.
Recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kindu, province du Maniema. Les habitants haussent les tons et appellent à l'implication des autorités politico-administratives et sécuritaires. Selon eux, il ne se passe plus une seule nuit sans enregistrer des cas d'incursion des bandits armés dans les maisons des paisibles citoyens. Le cas le plus récent est celui du lundi 28 avril au centre-ville où au moins 3 personnes, dont un membre d'un commando, ont été tuées après un cas d'incursion. De leur côté, les autorités provinciales disent garantir à la population leur implication afin d'éradiquer ce phénomène. Florence Kizalunga.
C'est dans toutes les 3 communes que la population crie pour sa sécurité. Avec cette multiplicité des cas d'incursion, certains se posent la question de savoir où est l'autorité de l'État. Maître Joseph Kambo Kongolo, représentant des jeunes entrepreneurs, demande au président de la République l'ajout des effectifs militaires et policiers au Maniema.
D'abord, en tant que leader d'opinion, même quand je parle ici, je me dis, peut-être même ma sécurité est en danger. L'insécurité bat record à Kindu, alors que c'est à ce même moment qu'il y a une politique militaire mise en place pour lutter contre l'insécurité. On ne comprend plus rien. Les gens meurent à tout moment. Les femmes sont violées devant leurs maris et devant leurs enfants. Les gens sont tués dans leur maison alors qu'ils n'ont rien fait. Où est partie l'autorité de l'État? Où sont partis les services de sécurité? Il y a des quartiers où on ne dort plus dans les maisons. Les gens sont dehors en train de s'auto-sécuriser. C'est très grave ça. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un État sérieux. En tout cas, nous demandons au chef de l'État, pour la sécurité du Maniema, de nous ajouter des policiers et des militaires. Qu'on ajoute les effectifs militaires ici. On est vraiment en insécurité. On ne sait plus à qui faire confiance.
Toujours par rapport à cette insécurité, une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie est prévue ce mercredi 30 avril au gouvernorat des provinces. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, des coups de feu se font entendre dans la ville d'Uvira depuis la nuit dernière. Il s'agit des affrontements entre les FRDC et les Wazalendo. Les communes de Kasenga, Kanvimvira et Mulongwe sont les plus affectées par les combats entre ces deux forces, pourtant engagées ensemble pour lutter contre l'avancée de l'AFC 123 vers la ville d'Uvira. Leur cohabitation semble difficile à cause des conflits des positionnements et de leadership. Éclairage avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Les coups de balle se sont poursuivis dans l'avant-midi sur les collines au-dessus de la ville d'Uvira. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est notamment les redéploiements des FARDC dans les crêtes des montagnes pour mieux sécuriser cette ville. Mais pour les combattants Wazalendo, ces crêtes des montagnes constitueraient leur lien stratégique de prédilection à ne pas partager avec l'armée loyaliste. Ces bras de fer entre les deux forces engendrent régulièrement des incidents sécuritaires dans la ville d'Uvira et affaiblissent leur collaboration. Les conseils de sécurité regroupant les institutions de la province et à leur siège dans la région ont tenté en vain de créer les climats d'attente entre les FARDC et les combattants Wazalendo. Les uns et les autres sont opposés par les conflits d'intérêts et de leadership, ce qui engendre l'indiscipline et l'ingérence dans la gestion de la chose publique et menace dangereusement la cohésion, l'esprit d'équipe et la mise en place d'un cordon sécuritaire qui assure la population. Pendant ce temps, nous apprenons que les rebelles de l'AFC M23 auraient débordé hier les montagnes qui séparent la chefferie de Kaziba jusqu'à Louvungi, dans la plaine de la Ruzizi, à moins de 50 km de la ville d'Uvira.
En plus bref, au Nord Kivu voisin, des violents combats opposent ce jeudi les combattants de l'AFC M23 aux groupes armés locaux dans la partie nord du territoire de Masisi. Ces affrontements, qui en sont à leur troisième jour, se poursuivent dans la localité de Nyangé. Groupement Bachal et Mokoto indique plusieurs sources. Les deux forces tentent chacune d'occuper cette zone reconnue pour sa grande potentialité agricole. Pendant ce temps, en Ituri, des combats sont signalés depuis la nuit dernière à Nyamamba, sur le littoral du lac Albert, dans le territoire de Djougou. Ouagadougou. Ces combats opposent les FRDC aux éléments de la Convention de la Révolution Populaire, CRP, milice de Thomas Lubanga. Selon des sources sécuritaires, ces rebelles ont attaqué une position de la force navale pour se frayer un chemin vers la localité de Tchoumia. Ils projetaient d'attaquer ce centre des négoces situé à quelques kilomètres de Bounia, ce qui a occasionné un mouvement des populations. Aucun bilan n'est disponible jusque-là. Martial Kizabiamungo.
C'est vers 21h locale que des hommes armés du mouvement rebelle Convention de la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga, ont attaqué la position de FRDC au centre de Nyamamba. Des sources militaires rapportent qu'après avoir été repoussés par l'armée dans les collines de Nyamamba, ces rebelles sont revenus à la charge vers 5h ce matin. Ces miliciens veulent déloger les militaires de l'unité commando et ceux de la force navale qui sont déployés sur les longs du littoral du lac Albert pour pouvoir attaquer plus facilement les centres commerciaux de Tchobia situés à 12 km de Nyamamba. Ces affrontements ont provoqué le déplacement de nombreux habitants, parmi eux des dizaines de familles qui venaient de retourner à Nyamamba, obligées de fuir de nouveau vers Tchobia et d'autres entités plus sécurisées. En fin de matinée, des sources locales affirmaient que des combats se poursuivaient toujours dans les collines surplombant Nyamamba. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce jeudi à Tunis à l'occasion de la fête du travail contre la politique du président Kaïs Saïd et pour demander la libération des personnalités politiques emprisonnées. La manifestation s'est déroulée quelques jours après que l'avocat Ahmed Souab, un ténor du barreau tunisien, a été placé en détention pour terrorisme. Il avait déclaré des pressions politiques sur les juges lors d'un récent procès à l'issue duquel une quarantaine d'accusés, dont des figures de l'opposition, ont été condamnés à des lourdes peines de prison pour complot contre l'État. Depuis le coup des forces par lequel M. Souaïd s'est octroyé les pleins pouvoirs à l'été 2021, les ONG et les opposants déplorent une régression des libertés en Tunisie, berceau pourtant du printemps arabe en 2011.
L'invité.
Le manioc peut-il rendre bête? C'est autour de cette question que experts et chercheurs étaient réunis au cours d'une conférence scientifique le mardi 28 avril dernier à l'université de Kinshasa. C'était pour analyser l'impact de cet aliment de base largement consommé en RDC sur les têtes des Congolais. Daniel Okitundu, médecin directeur du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, était parmi les intervenants. Il a apporté un éclairage médical et scientifique sur les effets possibles du manioc sur le cerveau et le système nerveux. Daniel Okitundu est notre invité. Il s'entretient avec Benjamin Moudoumbi. Suivez.
Bonjour, monsieur Daniel Okitundu.
Bonjour.
Quel était l'intérêt d'aborder la question « Les maniocs rendent-ils bêtes ?» dans une conférence aussi scientifique?
Oui, c'est pour répondre à la préoccupation de la population par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens se sont posés des questions pour savoir si le manioc, qui est l'aliment principal de notre pays, rend réellement bête. Qu'est-ce que les scientifiques pensent? Alors, il fallait tenir cette conférence pour éclairer l'opinion sur les bienfaits du manioc et le risque sanitaire lié à la consommation de produits à base de manioc.
Existe-t-il un lien entre la consommation de manioc et des troubles neurologiques ou cognitifs?
Oui, il existe un lien entre la consommation de produits à base du manioc amer mal détoxifié ou non détoxifié et le trouble neurologique. Alors, il y a deux types de manioc, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc doux, on peut consommer ce produit sans problème. Mais le manioc amer, il faut absolument le détoxifier d'une substance qui est un poison qu'on appelle cyanure, constitué de carbone et d'azote.
Vous ne pensez pas qu'il serait plutôt impérieux de les identifier pour limiter les dangers que vous venez de signaler tout à l'heure?
Les deux types de manioc sont bien connus des agriculteurs. Mais le problème, c'est lequel? Du point de vue de la production vivrière, c'est le manioc amer qui est plus rentable parce qu'il pousse dans des conditions difficiles et le rendement est important. Et puis les voleurs ne peuvent pas les voler, ni les animaux qui consomment le manioc ne peuvent les consommer.
Mais après, c'est les populations qui sont exposées.
Oui, les populations sont exposées. Ce n'est pas du fait parce qu'on ne consomme pas le manioc amer. Tout aliment doit être bien préparé pour qu'il soit sécurisant du point de vue alimentaire. Alors le produit à base de manioc amer pour les consommer, il faut être sûr que ça a été détoxifié.
Pouvez-vous nous expliquer l'effet de certaines substances contenues dans les maniocs sur les systèmes nerveux humains?
Oui, dès que le manioc est récolté et qu'il est travaillé, ça libère ces substances qu'on appelle glycosides cyanogènes, libère l'acide cyanhydrique qui est constitué de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. C'est un poison très puissant. Peut aussi modifier négativement le fonctionnement du cerveau et provoquer une excitation et générer ainsi des troubles de l'humeur, des troubles émotionnels et des troubles de comportement. Mais il y a une autre substance, le cyanate, qui est une substance très dangereuse parce qu'elle modifie les protéines qui se trouvent dans notre corps et au niveau du cerveau. Ça provoque la mort progressive des cellules du cerveau. Ce qu'on appelle la neurodégénérescence. Il y a aussi une autre substance qu'on peut avoir, qu'on appelle ATC en abrégé, qui est excitotoxique, c'est-à-dire que ça excite le cerveau. Et pour que toutes ces affections apparaissent, il faut qu'on ait une alimentation insuffisante en protéines, en vitamines dont nous avons besoin pour bien fonctionner, pour bien vivre.
Que recommanderiez-vous aux populations qui consomment les maniocs comme aliments de base pour éviter d'éventuels risques neurologiques?
Il faut détoxifier le manioc. Dans le technique traditionnelle, le manioc, qu'il soit doux et amer, on le mettait dans l'eau des marais ou à côté des rivières pendant 3 à 4 jours et après on les séchait, les cyanures étaient déchargées du manioc. Maintenant, à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, il y a la professeure Yandjo qui a mis au point des techniques qui permettent de détoxifier convenablement le manioc amer et le consommer de façon sécurisante. Donc, il faut informer et sensibiliser la population sur les risques qu'il y a à consommer le produit de manioc amer non détoxifié et sur les méthodes actuelles simples qui permettent de décharger ce manioc du cyanure. Mais les procédures de traitement alimentaire de fer de manioc éliminent les cyanures et comme ça le fer de manioc constitue par ailleurs un bon aliment. Pourvu qu'on ne mette pas les bicarbonates. Mettre les bicarbonates dans le pondou, c'est abîmer la valeur nutritionnelle et protectrice de fer de manioc pour le système nerveux.
Professeur Daniel Okitundu, je vous remercie.
À la mise en onde, c'était Debs Vita, un journal présenté par Noéla Luzito Kabambi, le tout sous la coordination de Jeux de Mystère Bilanda. Merci à vous tous de nous avoir suivis.